La carte blanche, Africa Radio.
L'UE a-t-elle pris la bonne décision en décidant de ne pas imposer de sanctions contre les autorités militaires de transition au Tchad? Ce sera le thème de notre débat dans un instant. Mais on commence tout de suite avec la revue de quelques sujets majeurs de l'actualité de cette semaine avec notre invité carte blanche. Il s'agit de Jean-Michel Sen. Monsieur Sen, bonsoir.
Bonsoir, Madame Liliane.
Ingénieur en électronique, énergie et systèmes ici à Paris. Votre premier sujet, c'est le sommet voulu par Emmanuel Macron, tenu mardi ici à Paris, sur le financement de la relance de l'économie africaine post-Covid. Quelle est votre lecture des conclusions qui ont été décidées à l'issue de ce sommet?
Tout d'abord, merci beaucoup, Madame Liliane, et bonsoir à tous les auditeurs. À titre liminaire, je dirais que ce sommet encore montre une fois de plus le déphasage entre la jeunesse africaine et les dirigeants africains. Nous savons tous qu'actuellement, la jeunesse africaine aspire à une autonomie sur tous les plans, parce qu'on voit quand même une jeunesse qui à chaque fois dit qu'il veut couper carrément le cordon ombilical avec la France, ce qui n'est pas, en tout cas, ce qui se passe avec les dirigeants africains, dans la mesure où la jeunesse africaine a l'impression, ou du moins se dit qu'actuellement la politique économique, la politique sociale et sociétale est dictée par la France. Je m'attendais plutôt à ce que l'Union africaine mette en place une politique de relance économique, comme l'a fait l'Union européenne, une politique de relance pour notamment une solidarité africaine pour sauvegarder les emplois en Afrique.
En levant de façon commune les fonds nécessaires au financement de la relance économique.
Non, là, ce que je disais, ce que je laissais entendre par là, c'est que je m'attendais à ce que l'Union africaine mette en place une politique de relance, en tout cas au niveau de l'Afrique. Par contre, là, par exemple, par rapport à ce sommet, si je veux rester sur ce sujet, si nous en tenons à la communication de l'Élysée, la France veut, par exemple, faire profiter à l'Afrique des droits de tirage spéciaux du FMI qui permettent de financer les importations. Et vous conviendrez sans nul doute avec moi que ce dont l'Afrique a besoin actuellement, ce n'est pas plutôt de continuer ou de persécuter en fait les importations, mais plutôt de mettre en place une politique d'industrialisation par
substitution. Et de production locale, de transformation locale de ces matières premières.
Justement.
Oui, mais sauf qu'on a vu beaucoup de chefs d'État aussi se montrer très enthousiastes par rapport à ces DTS dont vous venez de parler.
C'est ce que je disais tout de suite. Cela montre encore une fois à telle enseigne qu'il y a un déphasage entre ces jeunesses, ou bien entre le peuple africain, en tout cas actuellement pour la majorité, et ses dirigeants. Parce que, comme vous l'avez dit tout de suite, l'Afrique actuellement, nous savons tous pour qu'il se développe, il faut qu'il y ait un secteur secondaire fort. Il faut qu'il y ait une production, en tout cas locale, qui sera transformée en Afrique et puis qui sera encore vendue en Afrique. Mais là, si je vous donne l'exemple du Sénégal, par exemple, où qui sera vendu en Afrique ou celui qui peut être exporté aussi. Mais ce que si nous en tenons par exemple à l'exemple du Sénégal, où l'économie est portée en tout cas pour les 60% par le secteur tertiaire, en tout cas les services, et quand on regarde de près ces services, c'est quoi? Les banques, c'est les télécoms, et ce sont des emprises à majorité étrangère. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que dans la plupart du temps, quand on a par exemple une croissance économique de 6%, de 7%, cette croissance économique sera extravertie extravertie dans la mesure où elle est portée par des entreprises étrangères. Donc là, l'Afrique, encore une fois, s'il veut se développer ou si elle veut se développer, va encore investir carrément sur l'industrialisation.
Ce qui n'est pas la bonne piste pour la relance économique.
Justement, moi, dès l'instant où j'ai entendu parler de droits de tirage spéciaux du FMI pour financer les importations, je me suis dit que ce n'est pas la bonne formule, encore une fois.
Merci. Vraiment, en quelques mots, est-ce que la France n'occupe pas aussi le terrain parce qu'il n'y a rien que les pays africains proposent pour relancer l'économie?
Là, par exemple, si vous en tenez, par exemple, au débat qui se passe, ou bien dans la plupart des économistes africains, je peux, par exemple, citer l'exemple de Ndongo Sambasila. Je peux, exemple, aussi citer d'autres économistes africains qui tout le temps proposent des choses qui peuvent vraiment profiter à l'économie africaine. Les dirigeants africains ne les écoutent pas. On a l'impression, en fait, qu'ils attendent juste la politique dictée par la métropole, ou bien par la France.
Merci. Deuxième sujet, Jean-Michel Sen, en quelques mots, les États généraux de l'écho prévus la semaine prochaine à Lomé, l'opposant Ousmane Sonko convié, tout comme le Guinéen d'ailleurs, Seloud Alain Diallo, s'est vu refuser par la justice sénégalaise son autorisation de sortie du territoire.
Oui, tout à fait. Je vais d'emblée dire que c'était l'invitation du président Ousmane Sonko à cette colloque est tout à fait logique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que le président Ousmane Sonko est quand même devenu une figure politique d'envergure africaine, voire internationale. Et la deuxième, c'est que c'est un leader politique quand même qui aspire à une souveraineté économique et monétaire pour l'Afrique. Par conséquent, c'est tout à fait logique qu'il soit invité dans une colloque pour débattre sur le franc.
Manifestement, il ne pourra pas y être.
Tout à fait. Là, par exemple, là, ce qui s'est passé, c'est que le parquet a refusé son autorisation de sortie du territoire. Et cela a été confirmé aujourd'hui par le juge du deuxième cabinet. Et j'en profite pour dire que nous n'allons jamais accepter, en tout cas nous, moi je suis le coordinateur adjoint du mouvement des jeunes de PASTEF, je disais que nous, PASTEF, allons jamais accepter en fait que l'État du Sénégal utilise ce dossier judiciaire tel une épée de Damoclès contre le président Ousmane Sonko. Parce que Merci. Nous savons tous que la vacuité de ce dossier ne souffre d'aucune contestation objective. Nous savons que c'est un complot qui a été ourdi par le président Macky Sall et son gouvernement. Donc, pour rien au monde, nous n'allons accepter en fait, qu'ils l'utilisent pour empêcher le président Ousmane Sonko de mener à bien ses activités politiques.
En quelques secondes, retour de Benzema en équipe de France après plus de 5 ans d'absence, c'était très attendu.
Tout à fait. Je précise d'abord que je ne suis plus un grand amateur du foot. Par contre, je trouve que c'est une très bonne nouvelle dans la mesure où quand même Benzema a fait une très belle saison cette année. C'est l'une, en tout cas, il a fait l'une des meilleures saisons des footballeurs français. Donc, c'est tout à fait logique qu'il soit encore convoqué. Pour moi, c'est une très bonne chose.
Merci beaucoup, Jean-Michel Sen, ingénieur en électronique, énergie et système à Paris. Vous êtes également coordonnateur du mouvement de la jeunesse du PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, ici en France. Merci d'avoir analysé l'actualité de la semaine avec nous.
Africa, le grand rendez-vous sur Africa Radio.
L'Union africaine a-t-elle pris la bonne décision en n'imposant pas de sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Tchad? Nous en débattons ce soir avec 4 invités. Dr Sitak Yomatinan Beni, constitutionnaliste enseignant à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique de Yaoundé. Dr Beni, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous. Mahamat Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme et membre de la coordination du mouvement Wakitama, est également avec nous de N'Djamena. Bonsoir, monsieur Ibedou.
Bonsoir.
Jean-Bernard Padaré, bonsoir. Pas encore, ancien ministre de la Justice du Tchad et secrétaire général adjoint et aussi porte-parole du MPS au pouvoir. Et ici à Paris avec nous, Abdelkerim Yacoub Koundougoumi. Bonsoir.
Bonsoir, madame.
Coordonnateur.
Je suis malade, mais je serai là.
Voilà, merci d'être avec nous, coordonnateur du projet pour l'alternance crédible au Tchad, le Pacte. Vous êtes également, monsieur Koundougoumi, directeur Afrique de Internet sans frontières. Et je commence avec M. Ibedou qui est au Tchad. Est-ce que vous êtes satisfait de la décision prise par l'Union africaine ou est-ce que vous pensez que ça pourrait créer un précédent?
Non. Nous pensons que l'Union africaine a pris la mauvaise décision. Bon, elle est d'autant plus mauvaise que nous, ici, on la considère comme une honte pour l'Afrique. Parce que nous savons que l'Afrique n'a pas agi de son propre gré. Il y a eu des tractations, vous aurez dû constater qu'il y a eu des retards considérables pour que le résultat, enfin, puisque pour que son verdict tombe. Bon, nous, l'Union africaine est allée dans le sens voulu par le gouvernement français, qui est, depuis le coup d'État, que j'appelle le coup d'État, depuis le coup d'État, est fortement impliqué dans la mascarade de transition au Tchad.
Vous accusez, excusez-moi, monsieur Ibedou, la France d'avoir imposé sa décision à l'Union africaine, mais on a entendu le président en exercice de l'Union africaine ici en France, en marge du sommet sur la relance de l'économie africaine, monsieur Félix Tshisekedi, le président congolais par ailleurs, dire que une reprise en main musclée était nécessaire après la mort d'Idriss Déby. Il ne faut pas ajouter que le Tchad, il faut pas oublier que le Tchad, dit-il encore, est menacé par des hordes de rebelles et par des terroristes. C'est ce qu'il a avancé pour justifier cette prise de position de l'Union africaine.
Bon, ce qu'il a avancé est tout simplement ridicule parce que, franchement, en ce moment-là, la junte peut valablement remettre le pouvoir à un pouvoir, remettre le pouvoir aux civils. Ce qui lui permettra de ne s'occuper que des affaires de sécurité et de défense.
Un premier ministre civil est en place, Albert Pamikarpadake.
Mais il n'a aucun pouvoir, madame. Il n'a aucun pouvoir. Ce ministre décide des choses, mais le CMT fait ce qu'il veut. Par exemple, le ministre de la Justice, il avait demandé, enfin, il avait exigé qu'il n'y ait pas de répression, que les marches, que toutes les marches soient autorisées, que désormais personne ne va emprisonner personne et que les forces de l'ordre vont encadrer la marche. Mais qu'est-ce qu'on constate? Lors de la dernière marche, il y a eu une armada. Il y a eu même un état de siège de la ville de N'Djamena pour empêcher cette marche.
Merci. C'était mercredi et le président d'un des partis, je pense, c'est le parti réformiste, a dit avait été brutalisé et torturé.
Tout simplement brutalisé.
Merci, voilà. Monsieur Ibedou.
C'est évident que. Voilà.
Je voulais juste ajouter, avant de vous donner la parole au docteur Béni, que nous venons de l'apprendre à l'instant de Monsieur Jean-Bernard Padaré, qu'il ne pourrait plus finalement participer à l'émission. Il dit avoir un empêchement, donc c'est dommage parce qu'on n'entendra pas la version des autorités tchadiennes dans ce débat. Alors, Monsieur Béni, vous aussi, vous pensez que c'est une mauvaise décision qu'a prise l'Union africaine? Si c'est le cas, est-ce que il ne faudrait pas peut-être se dire que l'Union africaine a quand même peut-être une excuse, étant donné que il y avait déjà une situation de fait de départ qui est que il y a une junte au pouvoir qui a nommé un premier ministre, un gouvernement. Que pouvait encore faire l'Union africaine dans ces conditions?
Bonsoir madame et merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, j'étais pas étonné que justement Padaré ne puisse pas prendre la parole parce que c'est toujours comme ça, ils fuient tous les débats. Ils ont envie simplement de faire leur monologue seul, donc c'était pas étonnant. Donc soyez rassurés. Alors maintenant, pour répondre à votre question, vous savez, madame, l'Union africaine était déjà tellement décriée même avant ça, parce que en fait, tous les textes de l'Union africaine disent clairement que l'Union africaine est une organisation pour les peuples. Les peuples. Donc en principe, c'est pour ça que d'ailleurs même la charte, c'est la charte des droits de l'homme et des peuples, etc., etc. Nous sommes en Afrique. En Afrique, quand on parle souvent, c'est la communauté, c'est les peuples, etc. Malheureusement, l'Union africaine montre toujours dans ses décisions qu'elle ne travaille pas pour le peuple. Et ce qui est très grave dans la situation du Tchad, c'est que moi, je suis constitutionnaliste, je suis juriste, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Et donc, je pense qu'une chose, c'est la règle, les principes. Et toute autre chose, ce sont, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les exceptions. Les exceptions découlent de la règle. Vous ne pouvez pas mettre les exceptions avant la règle, sinon ce n'est plus du droit, ça. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quoi? Cette jurisprudence que vient de prendre l'Union africaine, c'est que dorénavant, les exceptions, n'est-ce pas, précèdent la règle, précèdent les principes. Et donc, chaque pays africain évoquera plus tard ses exceptions. Par exemple, demain, le Ghana pourra dire que je suis un petit pays enclavé, et donc j'ai ma particularité, j'ai une exception, et donc voilà. Et on va jouer par rapport à la petitesse. Donc, je pense que l'Union africaine vient là de tirer une balle dans ses jambes. Je l'ai déjà dit sur plusieurs médias déjà, et depuis hier avec le rapport de l'Union européenne a tiré encore une autre balle dans l'autre jambe de l'Union africaine, et donc du coup les deux jambes sont blessées, je ne sais pas quel est le médecin qui va enlever cette balle. Donc dorénavant on est parti pour justement...
Donc pour vous l'Union africaine a créé un précédent?
Mais un précédent fâcheux, madame, et donc dorénavant aucun pays, n'est-ce pas, sérieux, en Afrique ne pourra respecter, n'est-ce pas, l'Union africaine, ce qui était déjà très grave avant.
Merci.
Donc, du coup, je pense qu'on aurait pu, simplement, l'Union africaine aurait pu dire, écoutez, les principes sont les principes, il y a eu un coup d'État, c'est ça, non? C'est quoi les éléments de coup d'État? Quand vous sortez de nulle part et que vous jetez, n'est-ce pas, une constitution, même si elle n'était pas machin, tout ça, vous la jetez dans la poubelle. Quand vous décidez, n'est-ce pas, comme ça, de nulle part, à dissoudre un gouvernement, à dissoudre, n'est-ce pas, un parlement, à dissoudre tout et tout et tout et tout, et vous écrivez une charte en une nuit, que personne n'a été associé, etc. Ça, vous appelez ça quoi?
Merci beaucoup. Merci, monsieur docteur Béni. Alors, monsieur Koundougoumi, vous aussi, vous pensez que l'Union africaine n'aurait pas dû se fonder peut-être sur la situation de fait, parce qu'il semble que c'est peut-être cela qui a joué aussi le fait qu'il y a cet aspect sécuritaire qu'on met régulièrement en avant.
En fait, l'Union africaine était déjà mal partie. Depuis le début de la crise tchadienne, on a vu que le leadership dans la recherche de solutions était porté par Emmanuel Macron, Le Drian et le G5 Sahel.
Donc même pour la décision de l'Union africaine, vous pensez comme oui. M. Ibedou que c'est la faute de la France?
Ce n'est pas seulement de la faute de la France, c'est de la responsabilité de la France, étant donné que la France a lourdement influé et pesé dans cette décision. Aujourd'hui, on a vu Emmanuel Macron recevoir le président de l'Union africaine, Emmanuel Macron recevoir le président de la Commission de l'Union africaine, Emmanuel Macron qui envoie des diplomates partout pour essayer de convaincre les leaders africains réticents.
Mais d'accord, si c'est la faute de la France aurait mis la pression sur les responsables de l'Union africaine, mais où est le bon sens aussi, où est l'attachement aux principes de l'Union africaine dont vient de parler Dr Béni? Est-ce que ce n'est pas la faute de ces responsables de l'UA?
L'Union africaine n'existe pas. Finalement, on a constaté que c'est vraiment la chambre d'enregistrement où ils ne font que valider des décisions. Si l'Union africaine était indépendante, si l'Union africaine existait vraiment en tant qu'institution qui respecte ses principes et ses valeurs, cette Union africaine va s'engager et décider sans avoir à consulter qui que ce soit. C'est la montre, comme Ibedou l'a dit au début, on a mis pratiquement 10 jours pour qu'enfin, avec une attitude poussive, que l'Union africaine arrive à lever le petit doigt et valider ce qui a été déjà fait. Et Madame, je vous dis une chose que vous devez aussi savoir. Qui l'Union africaine a envoyé au Tchad pour essayer de faire ce rapport? C'est l'ambassadeur djiboutien. Est-ce qu'aujourd'hui, Djibouti est un exemple de démocratie?
Mais ce n'est pas parce que c'est un ambassadeur djiboutien qu'il va manquer d'indépendance.
C'est très important. On aurait dû confier la crise tchadienne, par exemple, au président ghanéen ou à Mamadou Issoufou du Niger, ou au président de l'Afrique du Sud, des gens qui...
Des démocrates, d'après vous?
Des démocrates qui ont une crédibilité et qui ont une écoute de leur peuple et du peuple africain.
Donc, pour vous, dès lors que la mission de l'Union africaine était dirigée par un djiboutien, vous vous êtes dit, c'est ce que vous semblez affirmer, qu'il n'en sortira rien de bon?
La commission est dirigée par un tchadien, Moussa Faki, qui est issu d'un produit du régime de Déby, qui est même venu lui-même valider porter allégeance à ses fils de Déby quand celui-là a pris le pouvoir, avant même de condamner quoi que ce soit. La commission a été envoyée dirigée par un État qui n'a même pas intérêt qu'il y ait une démocratie, même dans leur propre pays. Aujourd'hui, il vient de prendre des élections avec 90% des voix. Vous voyez? Et l'Union africaine est influencée, financée par la France.
Comment Merci.
Que ces États, que cette institution puisse se positionner de façon indépendante, libre et démocratique.
Merci, M. Koundougoumi. Et on a beaucoup entendu des accusations contre la France et l'Union africaine. Dans la suite du débat, on parlera du rôle de la CEMAC dans cette situation.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
L'Union africaine a-t-elle pris la bonne décision en optant pour l'accompagnement des autorités de transition au Tchad plutôt que des sanctions? Quelles conséquences de cette décision? Nous en parlons ce soir avec Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, coordonnateur du pacte ici en France, Mahamad Nour Ibedou, secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'homme et membre de la coordination du mouvement Wakitama, et Dr Sitak Yomatinan Beni, constitutionnaliste et enseignant dans les universités de N'Djamena et de Yaoundé au Cameroun. Je reviens et je voulais signaler que Jean-Bernard Padaré, ancien ministre et secrétaire général porte-parole du MPS parti au pouvoir du défunt Idriss Déby, a décliné notre invitation en début d'émission. Monsieur Ibedou, je parlais tout à l'heure avant la pause qu'on évoquera la... le rôle de l'organisation sous-régionale, la CEMAC, M. Ibedou, que nous avons perdu pour l'instant. Je vais donc m'adresser à vous, Dr Beni. Vous accusez la France, vous accusez l'Union africaine, mais est-ce que ces deux entités, c'est-à-dire cette personnalité, ce président français et l'Union africaine, ne sont pas intervenus parce qu'il n'y a pas eu aussi une implication de l'organisation sous-régionale?
Absolument, madame. Écoutez, quand on met en place des organisations sous-régionales comme la CEMAC, et même la CEAC, on aurait pu également même élargir un peu. Si la CEMAC était toute petite, on aurait pu quand même interpeller la CEAC, qui est un peu plus grande. D'abord, c'est des pays voisins.
Donc, ensuite, il y a un manque de leadership de la part de l'organisation sous-régionale. Donc, on ne peut pas... Peut-être l'Union africaine a aussi retardé parce qu'elle se disait, on attend d'abord de voir, comme c'est le cas souvent, comme ça a été le cas par exemple pour le Mali, avec la CEDEAO, qui s'est d'abord mise en action avant l'implication de l'Union africaine. Ça n'a pas été le cas pour le Tchad, avec la CEMAC.
Oui, absolument. Ça devait être d'abord l'affaire d'abord de la CEMAC, et puis même de la CEAC, puisque d'abord, eux sont voisins. Et puis en Afrique, on dit quand la case de ton voisin brûle, mais écoutez, tu viens aider quand même à éteindre le feu. On ne sait jamais, hein, demain ça pourrait être également ton cas. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que vous avez pointé, c'est qu'il y a un véritable manque de leadership. D'abord ça c'est un. Et puis deuxièmement, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que tous ces États se ressemblent. Hein. En Afrique centrale, c'est des dictateurs, c'est des potentats, c'est ça on le sait, hein, qui sont des chefs d'État qui s'accrochent au pouvoir, et donc qui organisent des élections, qui sont tout sauf libres, démocratiques, indépendantes, etc. Et donc, du coup, ils avaient tous l'accord de coup. Et donc, personne ne voulait, n'est-ce pas, jeter la première pierre à l'autre. Et donc, ils réfléchissaient beaucoup plus à leur cas. Si demain, ça arrivait chez moi, si je vais maintenant condamner, demain, est-ce que je vais faire, etc. Donc, ils ne pouvaient pas.
Merci.
Et donc, du coup, voilà, silence radio. Et donc, c'est comme ça que quand il y a la nature a horreur du vide, hein. Et comme il y a le vide, je pense comme ça que ça a traîné.
Voilà, chacun peut occuper le terrain. C'est également ce que vous pensez, mais Monsieur Ibedou, faute de leadership sous-régional, il était en ligne pourtant il y a quelques instants. On l'a à nouveau perdu, Monsieur Ibedou. Alors, Monsieur Kundungumi, vous m'entendez? Allô?
Oui, je vous entends.
Oui, Monsieur Kundungumi, sur cette absence de leadership sous-régional, est-ce que vous pensez que si la CEMAC s'était montrée plus réactive et plus attentive à la crise au Tchad, dès le décès du président Déby, la situation aurait pu peut-être être autrement?
Mais est-ce qu'on a laissé même à la CEMAC de pouvoir réagir? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on a laissé aux Africains de régler le problème tchadien à l'Africaine? Le premier pays qui s'est précipité pour reconnaître même le coup d'État, c'était la France. Avant même les institutions africaines. Le Quai d'Orsay fait un communiqué pour prendre acte de ce qui s'est passé comme si c'était le tuteur du Tchad. C'est ça le problème, madame. On n'a pas laissé à nos institutions, à nos leaders, ou même aux bonnes volontés, de pouvoir même proposer...
Donc vous êtes en train de dire que ni la CEMAC, en fait, ni l'Union africaine ne sont pas en mesure d'inverser une situation imposée par la France, que ces leaders ne sont pas en mesure, s'ils ne sont pas d'accord de la manière dont on gère une crise, de donner leur point de vue et de proposer leur solution?
En effet, la France a l'habitude de diviser pour régner. Le fait que la France, au lieu de, comme vous avez dit, de s'appuyer sur cette institution économique qui a une puissance quand même, qui a existé depuis 1994 et qui contribue à l'intégration de la sous-région, la France a préféré remplacer cette institution par le G5 Sahel qui n'a pour vocation que l'aspect sécuritaire et militaire. Donc, si aujourd'hui la France justifie son implication, son soutien à CCMT à cause des enjeux sécuritaires au Tchad et dans la sous-région, et son choix de compter et même de responsabiliser et de désigner Bazoum et le président mauritanien pour pouvoir prendre le leadership et essayer de régler d'être des médiateurs dans cette crise, ça veut dire que tout a été déjà planifié. La deuxième chose que je voulais vous partager avec vous, c'est que la CEDEAO a joué son rôle pleinement dans la crise malienne en essayant de mettre la pression en utilisant...
Et a même nommé un médiateur en la personne de Goodluck Jonathan qui fait les va-et-vient entre son pays, le Nigeria, et le Mali.
Voilà, vous voyez, vous avez vu. Mais la CEDEAO a joué son rôle pleinement, n'a pas laissé la France...
Mais justement, la CEDEAO, la CEMAC n'a pas joué le même rôle au Tchad, pourquoi accuser la France? Est-ce que ce n'est pas un peu trop facile de dire à chaque fois que c'est la France qui est responsable de ce qui s'est passé au Tchad?
Ce n'est pas une question de facilité intellectuelle là-dedans. C'est une question de constat, des faits, des gestes et des actes de la France, de la position de la France, qui a même fait un discours paternaliste pour dire que c'est elle qu'elle va assurer la sécurité et l'intégrité du Tchad et qu'elle ne laissera personne le faire. On a vu le problème de la CEMAC, c'est qu'il n'y a même pas une légitimité démocratique dans ces États. Ces États se ressemblent, tous des dictateurs, qui sont en train de tous préparer leurs fils pour se faire remplacer. Donc je ne vois pas comment ceux-là qui viendront donner des leçons. Imaginez qu'aujourd'hui, on est en train de proposer Faure et Ancilié pour venir être médiateur dans la crise tchadienne. Alors que nous sommes en train de condamner ce que Faure a fait chez lui, on condamne ce que Sassou Nguesso est en train de préparer chez lui en préparant son fils, on est en train de condamner ce que le Cameroun Paul Biya est en train de faire au Cameroun parce qu'il prépare son fils. Et aujourd'hui, on nous dit que vraiment, notre pays a eu le malheur de tomber en Afrique centrale. On regrette.
Merci. Merci. Je rappelle, s'il vous plaît, que nous parlons bien de la décision de l'Union africaine de ne pas sanctionner le Tchad, mais plutôt l'accompagner et non le procès. Ne faisons pas le procès de la France au Tchad. Messieurs, donc revenons, s'il vous plaît, au débat. Alors, docteur Beni, au niveau du Tchad, vous êtes très virulent contre cette décision de l'Union africaine, mais au niveau du Tchad, ce n'est pas la même perception. Les autorités tchadiennes se sont félicitées de cette prise de position de l'Union africaine, qu'elles estiment, qu'elles disent sage.
Oui, mais elle aurait dû être là pour apporter les argumentaires et tout ça, etc., etc. Non, en fait, ce n'est pas parce qu'on était trop dur. Non, moi, je suis un professeur de droit et donc je vous dis que l'Union africaine aurait pu dire oui, c'est un coup d'État, oui, c'est un acte que tous nos textes, n'est-ce pas, condamnent, mais point de suspension. Après, on regarde, est-ce que le Tchad...
Mais le mais là ne se situe-t-il pas au niveau de l'accompagnement de cette transition avec une exigence du respect de la transition de 18 mois? Là, l'Union africaine est très claire là-dessus.
Oui, mais la deuxième phase, cette deuxième phase, là, justement, on attend pour voir, parce que l'Union africaine doit nommer un haut représentant, une administration va accompagner tout ça, on attend pour travailler avec. Mais je disais, ils auraient pu dire quand même, c'est un coup d'État, c'est ça qui a manqué, c'est ce courage qui a manqué. Vous allez écouter, n'est-ce pas? Le président ainsi de l'Union africaine, quand il est arrivé à N'Djamena pour les obsèques, il a été très dur, qu'on ne peut pas tolérer ça. Et donc, ça veut dire qu'il était dans ses premières heures et donc il a compris ce qui s'est passé. Après, il s'est retrouvé à Paris, n'est-ce pas, où il a amené également le président Macron à rétro-pédaler. Et puis là, à la fin, n'est-ce pas, de la réunion, n'est-ce pas, sur les économies, il dit que ce n'est pas un coup d'État, mais c'est un assassinat, ce qui est encore plus grave. Parce que là, il aurait pu dire derrière également, rapidement, on va mettre en place une commission d'enquête, etc., etc. Donc, c'est ce courage qui a manqué là, qui va faire quand justement on va avoir une jurisprudence fâcheuse, n'est-ce pas, pour l'avenir. Mais l'accompagnement, il est là, parce que de toute façon, après, les éléments ou bien les raisons qui ont prévalu un peu, c'est qu'aujourd'hui, il y a des rebelles au nord, il y a ceux-ci au sud, il y a l'autre à l'est, à l'ouest, etc., etc. Je rappelle simplement que le pays qui est vraiment en danger, c'est le Mali. Et c'est pour ça d'ailleurs que le Tchad est allé, n'est-ce pas, au secours du Mali. Jusqu'à preuve de contraire, nous avons des militaires qui sont disséminés un peu partout. Donc, ça veut dire que le danger les pose beaucoup plus dehors qu'ici.
Merci.
Et donc, ce raisonnement qui pouvait faire croire que, justement, il y avait des questions de sécurité, tout ça, là aussi, je pense, ce sont des arguments qui sont très légers. Parce qu'on aurait pu quand même, même si un civil était là, on a un chef d'état-major, on a un ministre de la Défense, le militaire est toujours subordonné au civil dans tous nos textes. Ils auraient pu toujours continuer à faire leur travail.
Merci beaucoup. Merci, docteur
voilà,
Beni.
Les militaires pourraient continuer à faire son travail de sécurité.
Merci, docteur Beni. Alors, nous n'arrivons pas à joindre M. Nour Ibedou que nous avons eu en première partie de cette émission. Donc, on n'arrive pas à le joindre pour le moment. Et je rappelle que Jean-Bernard Padaré, le porte-parole du parti au pouvoir, le MPS, s'est désisté en début d'émission. Je reviens donc à vous, M. Kundungumi. Il y a eu cette sortie des parlementaires européens qui ont condamné la suspension de la constitution tchadienne et la dissolution du gouvernement. Est-ce que vous pensez que les parlementaires ont été plus virulents que l'Union africaine? Est-ce que finalement, quand on écoute leur position, il y a une si grande différence? Monsieur Kundungumi?
Oui, vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Cette déclaration, cette prise de position n'est pas arrivée comme ça. Il y a eu du travail qui a été fait, des consultations. La diaspora tchadienne est partie à la rencontre des députés européens et de la gauche. Et c'est ce travail-là qui a permis aujourd'hui à ces députés de prendre cette position courageuse, conforme par rapport à leurs principes et valeurs, qu'ils défendent d'ailleurs.
Mais quand elle appelle au retour, quand ils appellent au retour à l'ordre constitutionnel, là, c'est un discours déjà aussi entendu. C'est ce que demande aussi lui.
Oui, mais un retour à l'ordre constitutionnel, c'est que tout le
rapide,
monde demande.
Rapide, c'est ce qu'a dit lui.
Nous aussi, c'est ce qu'on demande, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Tout le monde veut demander l'ordre républicain. C'est ce qu'on demande, que l'Union africaine le demande.
Excusez-moi, je cite ce qu'a dit le parlementaire. Hein. Par notre voix, l'Europe demande à la junte de permettre des élections le plus rapidement possible et nous serons vigilants à ce que la diplomatie européenne s'emploie à convaincre ses partenaires tchadiens d'honorer leurs droits démocratiques. Donc cela veut dire que, est-ce que cela ne veut pas dire qu'ils ont pris aussi acte de la situation actuelle et demandent simplement maintenant à la junte de respecter ses engagements de céder le pouvoir au terme de 18 mois de transition?
Là, vous avez juste isolé une phrase dans la résolution qu'ils ont prise. Ça fait 3 pages, la résolution, madame. Ça fait 3 pages et ils ont condamné fermement la prise du pouvoir par le CMT. Ils ont condamné tout ce que ce CMT a fait. Ils ont condamné le fait que le CMT a suspendu la Constitution. Donc ils ont tout condamné. Ils demandent maintenant le retour à l'ordre constitutionnel. Qu'est-ce que les Tchadiens demandent, madame? Les Tchadiens ne sont pas là en train de dire que des vêtements en guerre. Tout ce qu'on demande, c'est des dialogues inclusifs. Tout le monde doit être autour de la table.
Aujourd'hui, le CMT l'a promis.
Non, le CMT veut faire une transition à la CMT. Ça veut dire une transition à marche forcée. Une transition avec une CMT dont le fils de Déby a pris le pouvoir par la force et qui s'est taillé une charte sur mesure avec plein pouvoir à pouvoir diriger cette transition à sa guise, comme il veut, en nommant qui il veut, en révoquant qui il veut, et en train de décider seul, en train de choisir les membres du Parlement de transition seul, et choisir les membres du gouvernement seul, choisir son premier ministre seul, et il est même capable de choisir les membres du CNP seul. Donc, c'est cela que les gens disent, OK, on ne veut pas de cela. On veut que c'est un civil qui dirige la transition. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui les militaires refusent, même pendant la transition, d'être sous les ordres d'un civil, pensez-vous que ces militaires-là accepteront après de se mettre sous les ordres d'une institution civile? Non. Aujourd'hui, le rôle de ces militaires, comme ils l'ont dit, même tous les acteurs de la vie politique engagés dans cette situation actuelle l'ont dit, on veut que les militaires participent à cette transition, qu'ils soient impliqués dans cette transition, mais
merci,
pas forcément le fils de Déby. On veut que ce soit une transition où les militaires jouent leur rôle de sécurité, de défenseurs du territoire et même de la lutte contre le terrorisme.
Merci.
Et de l'autre côté, on a des civils qui vont faire de la politique, qui
merci,
vont essayer d'organiser dans une transition consensuelle apaisée.
Merci, Monsieur Kundungumi. Dans la dernière partie, on verra quelle peut être la meilleure façon pour lui d'encadrer cette transition.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir du choix de l'Union africaine de ne pas prendre des sanctions contre les autorités intérimaires au Tchad, mais plutôt d'accompagner la transition et les conséquences de cette décision. Et nous en parlons avec deux des 4 invités que nous avions sollicités pour ce débat. Docteur Sitak Yomatinan Beni, constitutionnaliste, Mahamat Nou Ibedou de la CTDDH que nous avons perdu, Jean-Bernard Tapadaré du parti au pouvoir qui s'est désisté à la dernière minute, et Abdelkerim Yacoub Kundungumi, coordonnateur du pacte ici à Paris. Je reviens donc à vous, Monsieur Beni. Quelle est pour vous la meilleure façon ou le meilleur soutien que l'UA pourrait désormais apporter au Tchad pour que la transition soit respectée dans ce délai de 18 mois convenu?
Oui, très bonne question. Alors, je voulais très rapidement saluer mon ami Abdelkrim et puis saluer tout le travail qui est fait de l'autre côté là-bas, au niveau de la diaspora, vraiment justement pour faire en sorte qu'on ait toutes ces réactions-là et que tous les amis du Tchad, n'est-ce pas, puissent être au chevet du Tchad. Alors, pour répondre à votre question, si on a des amis du Tchad qui sont en train d'écouter cette émission-là, voici ce que l'Union africaine doit faire et devrait faire très rapidement. J'espère qu'ils vont arriver très rapidement. Nous avons besoin très rapidement, madame, en ce moment, d'aller vers un dialogue national inclusif. Et j'ajoute sincère, pas seulement inclusif, parce que nous avons organisé ces derniers temps des dialogues dits inclusifs, qui étaient des réunions de copains et de coquins, qui ont plutôt déstructuré, n'est-ce pas, les structures de l'État, qui ont plutôt fait plus du mal au Tchad, à tous les Tchadiens et au Tchad, et nous en sommes arrivés à ces résultats actuellement. Donc nous avons besoin d'un dialogue national inclusif, auquel j'ajoute le mot sérieux et un dernier mot qui est utile, qui doit être utile. Et ça, je pense que même ça, même le rôle que le gouvernement actuel, que j'appelle un gouvernement pré-transition, devrait très rapidement travailler, n'est-ce pas, avec l'Union africaine qui va arriver, pour que nous puissions rapidement identifier vraiment les gens qui vont faire partie de ce dialogue-là. Ensuite, le contenu, les grandes thématiques, etc., etc. Ça, même bien, c'est beaucoup de travail. Je pense que ça,
lui a parlé d'une constitution consensuelle.
Oui, il faut rapidement constater. Et qu'on puisse s'entendre très rapidement, parce que, madame, ce qui se joue au Tchad aujourd'hui, je le dis à haute voix pour ceux qui sont dehors comme à l'extérieur, il y a des ingrédients d'une guerre civile qui sont en train de se mettre en place. Et donc, si on ne fait pas vite, il va être trop tard pour le dialogue, il va être trop tard pour le gouvernement de transition, il va être trop tard.
Et en quelques mots, docteur Beni, ensuite on écoutera, pour conclure, M. Kundungumi, est-ce que vous avez des craintes quant au respect du calendrier de 18 mois fixé par l'Union africaine?
Mais nous avons des craintes, madame, parce qu'en ce moment, rien n'est clair. Et tous les jours, les actes qui sont posés matin, midi, soir, aujourd'hui au Tchad ne sont pas des actes en allant vers la réconciliation.
Vous parlez de la répression, vous voulez évoquer la répression des manifestations de Wakitama?
Mais il y a trop de répression. Il y a un chef de parti politique qui a été tabassé, torturé, qui est dans le combat depuis quelques jours, n'est-ce pas, à l'hôpital. Ça, c'était encore hier avant-hier. Pour rien comme ça. Il y a trop d'actes gratuits, de violences gratuites. Et puis même dans les actes qu'on pose, les décrets qui sont signés, ne sont pas des décrets apaisés. Vous avez des gens dans ce pays qui sont terrés dans leur maison parce qu'il ne faut pas sortir. On a arraché le passeport. Il y a des gens qui sont poursuivis. Il y a l'armée secrète qui continue, n'est-ce pas? Même ce matin, alors que je vous parle, il y a eu beaucoup de menaces dans les universités. Parce qu'hier, il y a eu, n'est-ce pas, des choses sur les campus. On a brûlé des véhicules. Et ce matin, il y a des quartiers qui ont eu les gaz lacrymogènes toute la journée. Les enfants ont couru.
Oui, il y a des étudiants qui ont pris à partie la ministre de l'Enseignement supérieur accusée d'être entrée au gouvernement. Merci.
Ça peut continuer aujourd'hui dans d'autres universités.
Merci. Monsieur Kundungumi, je vais vous poser la même question, mais avant, je voudrais vous demander, concernant la répression dont a parlé Monsieur Beniz, des militants de Wakitama, le président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, a dit que les droits et les libertés ne doivent pas passer par perte et profit et qu'il faut absolument que le pouvoir actuel, le CMT, fasse régner l'ordre, mais continue également à faire respecter les droits et libertés. Est-ce que vous pensez qu'avec cet engagement, il y aurait peut-être moins de répression des futures manifestations, puisque ça vient du président d'exercice de l'Union africaine?
Le président de l'Union africaine n'a aucun pouvoir. Aucune influence sur le CMT.
Mais c'est elle qui doit accompagner la transition.
Non, madame, vous voyez ce qu'on dit. Aujourd'hui, le CMT fait ce qu'elle veut. Le CMT est dirigé par des militaires qui sont en train de déployer leur programme. L'Union africaine, bon, on a vu la position même de M. Tshisekedi, c'est que c'est limite une girouette qui change à chaque fois. Il a dit quelque chose en N'Djamena, il a dit le contraire à Paris quand il a vu comment on appelle Macron. Et là, au forum économique, il a dit autre chose, vous voyez. Cette instabilité dans cette prise de position ferme, nette et claire...
Il n'est pas constant.
Il n'est pas du tout constant et c'est inquiétant.
Du coup, qu'est-ce que vous attendez? La même question donc. Qu'est-ce que vous attendez que l'UA fasse pour... puisqu'elle a décidé d'accompagner plutôt que de punir, qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse pour y arriver?
Aujourd'hui, pour que ces CMT-là puissent écouter les gens, écouter les institutions... il ne faut plus seulement compter sur l'Union africaine ou l'Union européenne, l'ONU ou je ne sais plus autrement. Il faut que toutes les institutions, les bonnes volontés internationales se mettent d'accord afin que le CMT n'ait pas d'autre alternative. Parce que si aujourd'hui l'Union européenne lui met la pression, le CMT va aller voir le Russe. Et si demain le Russe lui met la pression, le CMT va aller voir les Américains, vous voyez. Donc, pour moi, la meilleure des solutions, c'est que toutes les bonnes volontés, les institutions puissent se mettre d'accord ensemble, prendre des décisions communes et l'imposer au CMT sans porte de sortie ni d'échappatoire. Sans cela, le CMT fera ce qu'il veut. Ça, franchement, c'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, on a mis la pression sur le mouvement citoyen, on a mis la pression sur la diaspora, on a mis la pression sur le mouvement armé, on a mis la pression sur le parti politique de l'intérieur. Mais il n'y a jamais eu de pression sur le CMT. Pourquoi? Pourquoi on ne demande pas au CMT de changer la charte? Pourquoi on ne demande pas au CMT d'ouvrir et de mettre des civils dans ces comités afin de pouvoir apaiser les choses? Pourquoi on ne demande pas au CMT de pouvoir se mettre autour d'une table et accepter de discuter avec les forces armées? Puisque jusqu'au moment où le CMT dit qu'il ne veut pas discuter avec les rebelles et qu'il les traite des hordes de terroristes. Vous voyez?
Le CMT qui a néanmoins accepté qui s'est également engagé de ce qu'aucun de ses membres, de 15 membres, ne sera candidat à la prochaine présidentielle, c'est une promesse faite à l'UA. Vous y croyez? Vous l'espérez?
C'est écrit où cette promesse?
Bon, il s'est engagé, le CMT.
Madame, les paroles s'envolent, les écrits restent. Est-ce que le CMT est parti changer, modifier, amender cette charte pour écrire noir sur blanc qu'ils ne vont plus se présenter? Est-ce qu'ils ont effacé là où dit que le CMT peut être prorogé la durée du mandat de 18 mois?
Bon. Non. Peut-être cela viendra avec l'accompagnement que lui a promis et l'envoi annoncé d'un envoyé spécial donc pour encadrer cette transition au Tchad. Merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Merci à Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, coordonnateur du pacte et directeur Afrique d'Internet sans frontières à Paris. Merci au docteur Sitak Yomatinan Beni, constitutionnaliste, enseignant à l'Université de N'Djamena et à l'Université catholique de Yaoundé au Cameroun. Merci à Mamadou Ibedou de la CTDDH, et malgré l'absence du PMPS.